La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui Hélène Filliol, conseillère,
et Sophie Rodriguez, conseillère référendaire.
Bonjour Hélène.
Bonjour Sophie. Nous poursuivons le cycle des podcasts dédiés à la prescription en droit du travail, commencé en mars 2025 avec le podcast numéro 35. Clélia Prieur nous disait
« Face au droit fondamental de saisir le juge, le litige s'inscrit dans une temporalité vivante et complexe, nommée prescription extinctive. Elle se définit comme le principe juridique selon lequel un droit s'éteint après un certain délai si son titulaire ne l'a pas exercé. C'est donc un moyen de défense récurrent dans les litiges prud'homaux qui vient sanctionner le demandeur non diligent. Au-delà de sa dimension punitive, elle renforce également la sécurité juridique des parties en les encourageant à agir rapidement pour faire valoir leurs droits. Nous lui consacrons une série pour en décrypter les mécanismes.
Pour ce nouveau podcast de la série spéciale Prescription, nous retrouvons Julie Thomas Davost, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Bonjour Hélène, bonjour Sophie.
Bonjour Julie. Tu nous avais déjà guidé pour l'acquisition des réflexes méthodologiques à avoir quand dans un dossier, une question de prescription se pose. Nous avions été amenés à aborder les différents délais de prescription applicables en droit du travail et le principe selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au second élément qui définit une prescription, son point de départ. Pour une même durée de prescription, on n'obtient pas du tout le même résultat si on commence le décompte à une date ou à une autre, 6 mois avant ou 1 an.
Tous les textes légaux qui fixent un délai de prescription en définissent le point de départ. Prenons par exemple l'article L1471-1 du Code du travail. Comme nous l'avons étudié lors de notre premier podcast, il distingue notamment les actions portant sur l'exécution du contrat de travail de celles portant sur la rupture. Pour les premières, il précise qu'elles se prescrivent par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, tandis que les secondes se prescrivent par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
En effet, le législateur a mis en place 2 types de points de départ. Les premiers sont dits flottants ou glissants. C'est le cas lorsque le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette formule que tu as citée, Hélène, est également celle que l'on retrouve dans d'autres textes, comme dans l'article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières, ou encore dans l'article L3245-1 du Code du travail pour les actions en paiement ou en répétition d'une créance de salaire.
Cette formule, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, évoque un adage latin connu des juristes qui signifie que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Exactement. Mais cette idée irrigue également le second type de point de départ, celui dit fixe, que le législateur a utilisé notamment pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail. Même si la loi définit objectivement ce point de départ comme étant la date de la notification de la rupture, la Cour de cassation a été amenée à en préciser les contours, comme nous allons le voir, en gardant toujours à l'esprit qu'un délai de prescription qui a pour fonction d'éteindre un droit ne peut pas courir à l'encontre d'une personne qui n'a pas connaissance de celui-ci.
Avant que nous explorions la construction jurisprudentielle de la Cour de cassation en matière de point de départ des délais de prescription, je précise que ce podcast ne traitera pas des actions relatives à la discrimination ou au harcèlement moral ou sexuel. La prescription de ces actions fera en effet l'objet d'un autre épisode de notre série, au regard des règles particulières et spécifiques qui leur sont applicables.
Comme tu nous le rappelais, Julie, le législateur a prévu un point de départ fixe pour le délai de prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, qui est objectif. C'est la notification de la rupture. À première vue, la date de celle-ci paraît simple à déterminer.
Oui, sauf que lorsqu'on parle de notification d'un acte, il y a trois dates possibles. Celle de l'expédition, celle de la présentation de la lettre recommandée et celle de sa réception. Prenons l'exemple d'un licenciement. À compter de quelle date court le délai de prescription d'une contestation par le salarié de son licenciement?
C'est la question que la Cour de cassation a tranchée dans un arrêt rendu le 21 mai 2025. À cette occasion, elle a dit que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Ainsi, la prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu une connaissance effective du licenciement.
On retrouve donc une nouvelle fois cette idée que la prescription ne peut pas courir contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
Et qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas, à proprement parler, de notification de la rupture? Prenons l'exemple d'un salarié intérimaire qui obtient la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, car ses contrats de mission successifs avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice. Il veut faire juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt rendu le 12 février 2025. Le texte de l'article L 1471-1, alinéa 2, fixe comme point de départ du délai de prescription la date de la notification de la rupture. Cependant, dans l'hypothèse de la rupture d'un contrat de mission ultérieurement requalifié en CDI, il n'y a pas à proprement parler de notification de la rupture. La Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription d'un an est le terme du dernier contrat de mission lorsqu'à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
Cette solution s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence constante de la Cour qui juge que l'employeur, qui à l'expiration d'un CDD ultérieurement requalifié en CDI, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture et que cette rupture s'analyse en un licenciement.
On peut évoquer un autre type de rupture du contrat de travail, la mise à la retraite d'un salarié par son employeur. Dans ce cas, le Code du travail ne prévoit pas, à proprement parler, de notification de la rupture. Quel est alors le point de départ du délai de prescription applicable pour l'action en paiement d'une indemnité de mise à la retraite?
La réponse nous est donnée par un arrêt rendu le 10 décembre 2025. Le point de départ du délai de prescription d'un an applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur et la date de la rupture du contrat de travail.
Oui, dans cette affaire, la Cour d'appel avait retenu comme point de départ du délai de prescription la date de la notification de la lettre de l'employeur informant le salarié de sa mise à la retraite. On peut imaginer qu'elle a raisonné comme en matière de licenciement, où est prévu l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture au salarié. Cependant, la lettre de l'employeur informant le salarié de sa mise à la retraite n'a pas les mêmes effets que la lettre de licenciement qui, elle, emporte rupture du contrat de travail dès la date de son envoi. La Cour de cassation juge que pour apprécier si les conditions requises pour la mise à la retraite sont réunies, il faut se placer à la date d'expiration du contrat. C'est donc à ce moment-là seulement qu'intervient véritablement la rupture de la relation de travail. Le salarié en a connaissance puisqu'elle correspond à la date de son départ effectif de l'entreprise. Dans cette décision du 10 décembre 2025, la Cour de cassation retient donc que c'est à la date du départ effectif à la retraite du salarié que le contrat de travail est rompu et que c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite.
Parlons maintenant des points de départ glissants ou flottants. c'est-à-dire de ceux qui courent à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette formulation, éminemment subjective, a donné lieu à un important contentieux. En raison de la grande diversité des situations rencontrées, elle a été l'objet d'interprétations très diverses, voire contraires.
Sa mise en œuvre a donc conduit la Chambre sociale à objectiver l'appréciation de ce point de départ originel. Elle a ainsi défini, à partir du critère légal, pour un certain nombre d'actions, la date de la connaissance des faits permettant au titulaire du droit d'agir. Il s'agit de trouver un équilibre entre sécurité juridique et effectivité du recours ouvert au justiciable.
C'est ce que la Cour a fait, par exemple, pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail. L'analyse de sa jurisprudence montre qu'elle a retenu, pour un certain nombre d'actions, la date à laquelle le vice est devenu apparent pour le titulaire du droit, comme elle a pu le faire pour les actions en requalification de CDD en CDI.
Parfaitement. Lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention impérative, comme la mention du motif du recours au CDD par exemple, le salarié peut immédiatement le constater dès la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription sera alors la date de conclusion du contrat de travail.
Mais le point de départ ne sera pas le même si la requalification du CDD en CDI est fondée sur un autre motif. C'est ce que montre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la Chambre sociale. Il différencie les points de départ applicables à l'action en requalification en fonction des motifs invoqués au soutien de cette demande.
Oui, il rappelle notamment que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI court lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
En revanche, ce même arrêt rappelle que lorsque la requalification est fondée cette fois sur la réalité du motif du recours au CDD, le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le point de départ du délai de prescription est la date du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, celle du terme du dernier contrat. Qu'est-ce qui justifie ce report ?
L'action en requalification tend ici à faire sanctionner en justice le manquement de l'employeur aux conditions de recours à ce contrat précaire. Rappelons que ces conditions ont été édictées afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de ce type de contrat dans un souci de protection du salarié. Or, le fait pour un employeur d'avoir recours à un CDD ou à une succession de CDD pour pourvoir un emploi permanent a un caractère continu. Il se prolonge tout au long de l'exécution du contrat. Il se révèle au salarié dans son entièreté qu'à la fin de la relation contractuelle. Retenir un point de départ du délai de prescription antérieur au terme du contrat aurait eu pour conséquence de permettre à l'écoulement du temps d'effacer le vice affectant le contrat. Cela aurait porté une atteinte excessive à l'effectivité des droits au recours du salarié.
On vient de parler de l'action en requalification de CDD en CDI. Mais la Chambre sociale a retenu le même raisonnement pour définir le point de départ du délai de prescription d'une action en paiement de l'indemnité de requalification.
Oui, dans un arrêt également rendu le 12 février 2025, elle a retenu que lorsque la requalification est prononcée en raison du motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription de l'action en paiement de cette indemnité a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrat, le terme du dernier CDD.
L'analyse de la jurisprudence montre qu'il existe d'autres actions relevant de l'exécution du contrat de travail pour lesquelles le point de départ du délai de prescription dépend de l'information donnée par l'employeur au salarié de ses droits.
En effet, par exemple, dans un arrêt rendu le 25 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié et la date à laquelle ce salarié avait eu connaissance de ses droits et au plus tard celle de la rupture du contrat de travail.
Pour comprendre cette décision, il est important de rappeler que la contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures supplémentaires. Les salariés sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. Et tant que le contrat est en cours, le salarié doit exercer ce repos en nature.
Tout à fait, mais le Code du travail prévoit que lorsque le contrat prend fin, avant que le salarié ait pu prendre son repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre, il a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Le législateur a sur ce point expressément prévu que dans ce cas, cette indemnité avait la nature d'une créance de salaire.
Mais si le Code du travail prévoit que cette indemnité a la nature d'une créance de salaire, elle relève alors de la prescription triennale. Pourquoi alors lui avoir appliqué la prescription biennale ?
Parce que cette indemnité n'a pas la même nature selon le motif pour lequel elle est due. Elle est une créance salariale lorsque la contrepartie obligatoire en repos n'a pas pu être prise parce que le contrat a été rompu avant que le salarié n'ait pu l'exercer. Elle a en revanche la nature d'une créance indemnitaire lorsque cette contrepartie obligatoire en repos n'a pas pu être prise en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié du nombre d'heures de repos compensateur auquel il a droit. C'est le cas notamment lorsque l'employeur n'a pas tenu de comptabilité des heures supplémentaires réalisées par le salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra jamais prendre le repos auquel il a droit pendant l'exécution du contrat. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette indemnité a alors la nature de dommage-intérêt et elle doit, à minima, comporter le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité des congés payés afférents.
On comprend dès lors que, dans l'hypothèse où l'employeur n'a jamais informé son salarié sur le nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos, le point de départ du délai de prescription de la demande en paiement de cette indemnité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, la date de la rupture du contrat. C'est en effet au plus tard à cette date que le salarié, avec son solde de tout compte, pourra vérifier s'il a été ou non rempli de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos. C'est également à cette date qu'il pourra prétendre à une indemnité en réparation du préjudice subi, puisqu'aucune exécution en nature de son droit à des repos compensateurs n'est plus possible en raison de la fin de la relation de travail.
Déterminer la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir est donc fondamental. C'est un fait qu'il faut pouvoir prouver.
Oui, et il faut se souvenir que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Un arrêt du 5 novembre 2025 le rappelle et l'illustre. Un salarié qui se plaignait de ne pas avoir pu bénéficier de ses droits au titre d'un plan d'épargne salariale et d'un accord de participation sollicitait des dommages et intérêts en réparation de la perte de ses droits à ces titres. L'employeur soulevait la prescription de cette demande. La Cour a rappelé que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir et a approuvé la Cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas de la date à laquelle le salarié avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En effet, la Cour d'appel avait constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir rempli ses obligations conventionnelles d'information du salarié quant à ses droits à participation et au titre du plan d'épargne d'entreprise.
Nous avons vu lors du premier épisode de la série de podcasts dédiée à la prescription en droit du travail qu'alors que le paiement du salaire est une obligation essentielle liée à l'exécution du contrat de travail, ce n'est pas le texte relatif à la prescription des actions relatives à l'exécution du contrat qui s'applique, mais qu'un texte spécial définit le délai de prescription de l'action en paiement du salaire. Il s'agit de l'article L3245-1 du Code du travail. Ce texte reprend la même formule que celle que nous venons d'examiner. L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour une créance de salaire, qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
La Cour de cassation a plusieurs fois jugé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date correspond au terme de l'obligation de l'employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son co-contractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu'il fait naître le droit de créance du salarié.
Il faut donc vérifier la prescription pour chacune des créances de salaire, en prenant en considération sa date d'exigibilité propre.
Tout à fait. La particularité de l'obligation de payer le salaire est qu'elle est à exécution successive et perdure tout au long de l'exécution du contrat. Ainsi, chaque défaillance de l'employeur à son obligation de payer le salaire à l'échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance. En pratique, lorsque le salarié demande le paiement d'un rappel de salaire pour une période dépassant une seule échéance de rémunération, on peut regarder si la date d'exigibilité du dernier salaire sollicité se trouve dans le délai de 3 ans de la saisine de la juridiction prud'homale. Si tel est le cas, l'action est recevable.
Nous savons que la Chambre sociale a qualifié de créances de nature salariale des créances qui ne portent pas sur des salaires au sens strict.
Oui, et la solution est à décliner en fonction des dates d'exigibilité de ces créances. Par exemple, pour une indemnité de congé payé, il s'agira de la date d'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
L'employeur aussi peut solliciter un paiement. L'article 3245-1 du Code du travail ne concerne pas seulement la demande en paiement du salaire du salarié. Il mentionne expressément aussi l'action en répétition du salaire.
Dans ce cas, la Cour de cassation juge que le point de départ du délai de prescription est la date du paiement de la somme dont l'employeur sollicite le remboursement, si à cette date, il est en mesure de déceler le caractère indu du paiement et donc d'en demander la restitution. Elle a rappelé ce principe dans 2 arrêts récents. Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, l'employeur sollicitait le remboursement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite versée à sa salariée. La Chambre sociale a jugé qu'à la différence de l'indemnité de mise à la retraite, l'indemnité de départ volontaire à la retraite du salarié ne vient pas réparer un préjudice, mais à la nature d'une créance salariale. Elle soumet donc la demande à la prescription triennale applicable aux créances salariales. Elle a précisé que le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.
Voilà pour le premier arrêt. Qu'en est-il du second, qui date du 10 septembre 2025 ?
La Cour de cassation a jugé dans cet arrêt que l'action en répétition d'une indemnité de congé payé qui a la nature d'une créance salariale est prescrite au bout de 3 ans et que cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.
C'est la fin de notre podcast. Vous pourrez trouver les références des arrêts que nous avons évoqués sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Nous vous rappelons que si vous souhaitez approfondir cette réflexion sur la prescription en droit du travail, vous pouvez consulter l'étude que la Chambre sociale lui a consacrée dans le recueil 2023 des études de la Cour de cassation. Ce recueil est accessible depuis le site internet de la Cour. Merci Julie, merci Hélène.
Merci à vous.
À bientôt.